Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir. Toutes nos excuses pour le retard accusé dans le démarrage de cette émission. Retard dû à l'interruption alors du courant, bien sûr, électrique ici chez nous. Merci de nous choisir. La lutte contre la grossesse des élèves filles prend une nouvelle dimension au Togo. 43 élèves coupables alors de grossesse sur des élèves filles en font les frais. Ils sont exclus hier mardi 11 mars 2025. De tous les établissements du ressort de la direction régionale de l'éducation du plateau Ouest. Le sujet fait débat dans l'actualité et nous aborderons bien sûr le sujet avec mes confrères journalistes en studio avec moi. Nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité dans notre pays dans cette émission Club de la presse de ce mercredi 12 mars 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Soussa sur la mise en onde, Jérôme Dakouta est à la mise en ligne. Je suis Pascal Losso au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous et qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nekho, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassaa, Sama FM, nous sommes à Bagapré de Niamtougou et puis Radio Koktouazi à Dapaon. Et vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Paix. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Hymne Radio et Radio Libéré. Club de la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain aussi, du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi, Sylvestre Béni, bonjour.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à tous les fidèles branchés.
Vous avez décidé d'être dans un Aladi ce matin. Je veux bien parler alors de votre tenue.
Non, écoutez, je suis africain et donc fier de l'être. Et donc, de temps à autre, il faut être dans les tenues africaines et voilà, quoi, valoriser ce que nous avons de précieux.
Je suis parfaitement d'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu même d'ailleurs à cette invitation. Ça fait plaisir d'être avec vous. Abassi Saka, bonjour. C'est toujours commandant.
Ouais, bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
On rend grâce à Dieu et puis c'est toujours commandant même si les gens sont jaloux de notre grade de commandant.
Décidément, qui sont ces gens-là qui sont chargés?
Ils se reconnaissent.
En tout cas, je sais que c'est Patrick seul quand même qui est aussi commandant.
Patrick n'est plus jaloux parce que c'est mon commandant en second, donc je le salue, je lui fais un coucou là, parce que je dois aussi saluer tous les musulmans et chrétiens qui sont en plein carême pour ce mois de mars. Je pense que nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous amène à bon port.
Justement, c'est ça notre prière. Et ce mois de mars, comme le disent certains, c'est bien béni.
C'est un mois béni
et béni également pour quelqu'un parmi nous ici studio.
Non, on ne parle pas de lui.
Je veux bien parler de Justin Anani. Ah. Justin Anani qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Ah. Justin, bonjour.
Ah bon? Pascal.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
Merci. Merci.
Tu as la chance que nous sommes.
Il a la chance.
Non, peut-être qu'il va assumer la troisième mi-temps.
À quelle heure? À coup sûr. Après la prière musulmane de 18h,
on attend.
Parce que parmi nous, il y a les musulmans, donc on ne va pas faire exception. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment et à celles également qui nous suivent. Joyeux anniversaire également à tous ceux-là qui sont nés un 12 mars et bien de choses à tout le monde.
Joyeux anniversaire à toi.
Merci beaucoup, Pascal.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Avec plaisir.
Voilà, Isaïe Edo, bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
J'espère que vous, votre anniversaire, c'est pas aujourd'hui.
Non, c'est encore très loin. Je vous tiendrai informé quand même.
D'accord, ça nous fera plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Gadiel Tchondadi est là, puisque le journal Santé Éducation est dans les kiosques. Gadiel, bonjour.
Pascal, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Et j'espère que vous allez bien.
Ça va.
Dieu merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon, justement, je le disais, votre journal Santé Éducation est dans les kiosques. Ce matin, vous avez, comme vous avez l'habitude même d'ailleurs de le faire, vous traitez des sujets liés à notre santé, rien que pour nous donner des alertes face à un certain nombre alors de pathologies. Vous vous intéressez aujourd'hui à... Enfin, il y a un titre qui m'intéresse bien. D'abord, vous écrivez dépendance, agressivité, attention aux somnifères.
Oui, les somnifères. Les somnifères, ce sont des médicaments qui, en principe, doivent être prescrits par un médecin dans une situation assez particulière d'un patient. Et quand le médecin prescrit le somnifère au patient, il le suit, il donne des instructions fermes. Vous prenez ça tant et puis vous arrêtez tant. Et le patient a le droit de revenir au médecin, de dire « bon, ça me va, ça ne va pas, je dors, je n'arrive pas à dormir » et ainsi de suite. Et le médecin va voir ce qu'il va faire. Et sur le plan international, c'est remarqué qu'il y a de plus en plus de consommation des somnifères parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes font l'automédication. Et c'est ça le problème. D'après les ordres au niveau médical, il y a certains médicaments qu'on ne doit pas automédiquer. On ne doit pas prendre soi-même et commencer par les avaler. Il faut que ce soit un prescripteur qui soit derrière. Et les dommages sont là aujourd'hui parce que plusieurs personnes qui prennent ces cachets, ces médicaments, ont des dommages sur leur organisme, sur leur santé, et c'est vraiment dommage. Donc, c'est une alerte, hein, Pascal. Ceux qui s'automédiquent au niveau avec les somnifères, attention, vous voyez cet article sur une page, tous les dommages, ce que ça crée comme dommage sur la santé, sur l'organisme, c'est très dangereux. Donc, si quelqu'un veut... prendre un somnifère, la personne doit consulter. Si la personne ne dort pas, la personne doit consulter. Et c'est au médecin de lui prescrire un somnifère selon ce qu'il a dit, selon les analyses qu'il a faites, et puis selon l'état du patient. C'est seul le médecin qui le sait et qui le prescrit.
Alors, donc, Gadiel, ça veut dire que, alors, du jour au lendemain, si nous sentons quand même que nous ne dormons plus comme avant ou nous ne dormons plus assez, on ne va pas se lever comme cela et aller acheter du somnifère et pour régler la situation.
Pas du tout. Faut pas le faire. Il faut consulter. Si on ne dort pas, ce qui est un problème. Alors, ceux qui souffrent de l'insomnie, ce qui est un problème. Alors, quand on ne dort pas, il faut aller voir le médecin. Et le médecin fait des analyses. Il recommande des analyses. Et suite à cela, il verra ce qu'il va faire. Mais quand vous-même, vous allez... D'ailleurs, même dans certains pharmacies, quand vous allez aujourd'hui pour acheter des somnifères, ils vont demander une ordonnance.
Voilà.
Et on sait qu'il y a des somnifères qui sont sur le marché noir. Et c'est ça que les gens prennent souvent. Et ça pilule un peu partout. Donc, alerte à la prise anarchique des somnifères, il y a danger. Il y a gros danger.
Il y a gros danger. Vous vous intéressez encore à un autre sujet. C'est, vous écrivez « thé pour contribuer à la perte du poids ». Et ce qui veut dire que nous avons aujourd'hui des thés qui nous aident à diminuer notre poids.
Qui contribue? C'est bien dit que qui contribue. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qu'il faut faire. Vous savez, il y a des gens, ils veulent perdre du poids et ils vont acheter une cargaison de thé qu'on leur propose. Et puis, ils sont dedans. Ils prennent le thé matin, midi, soir. Et ils ne respectent pas l'hygiène de vie. Ils ne respectent pas l'art de l'alimentation. Et la sédentarité, ils ne respectent absolument rien. Mais ils s'empiffent de ce thé. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, pour perdre du poids, il y a plusieurs activités qu'on doit faire. C'est plusieurs activités qui rentrent en jeu pour qu'on arrive à perdre du poids. Si vous voulez perdre du poids, ce n'est pas possible sans le sport, sans une activité physique ou bien sportive. Ce n'est pas possible. Donc là, c'est des thés qui contribuent, qui accompagnent. Vous savez, aujourd'hui, d'après les données au Togo, 11% de Togolais sont obèses. C'est grave. Et 30% sont en surpoids. Donc là, il y a un problème dans notre communauté, dans nos sociétés, et il faut réagir. On propose cet article au niveau des thés. Les thés, ça apporte un certain nombre de vertus au corps pour pouvoir digérer un certain nombre de grains, un certain nombre de gras et autres, et permettre qu'on puisse perdre du poids. Mais pour perdre du poids, on l'a dit dans l'article, c'est plusieurs activités qu'il faut mettre en jeu pour avoir des résultats.
D'accord, plusieurs activités qu'il faut mettre en jeu pour avoir des résultats, et ça c'est pour perdre du poids. Et là, à la une de votre journal Santé Éducation, je lis ceci, hein, Gadiel, nettoyer les vaisseaux sanguins, remèdes. Vous nous proposez alors des remèdes pour nettoyer nos vaisseaux sanguins, c'est ça?
C'est un remède naturel. Vous savez, parce que je viens de dire, hein, 11% obèses, 30% en surpoids, toutes ces personnes ont forcément un problème au niveau des vaisseaux sanguins. Hein. Les vaisseaux sanguins, c'est les canaux par lesquels le sang passe pour nourrir tout l'organisme, et c'est bien ordonné au niveau du corps. Et ces vaisseaux sanguins doivent avoir une voie tout à fait dégagée. C'est comme vous avez fait les tuyaux chez vous à la maison pour la canalisation d'eau, hein, Pascal. Si par endroit, il y a quelque chose qui bouche ces tuyaux-là, il va y avoir un problème de circulation d'eau. Est-ce que vous voyez? C'est pareil dans l'organisme. Il arrive que l'excès de graisse, hein, que nous avons, se stocke au niveau des vaisseaux sanguins. Et cela bouche la bonne circulation du sang. Cela produit des plaques qui peuvent se détacher et boucher l'entrée, en tout cas la bonne circulation du sang, mais autour desquels peuvent se former des caillots de sang. Et là, il y a un problème. Donc, c'est absolument très important que nos vaisseaux sanguins soient en bonne santé. Et pour cela, il faut commencer par l'alimentation. C'est le premier facteur. Il faut commencer par la bonne alimentation.
Il faut préciser la bonne alimentation.
La bonne alimentation. Et c'est très important. Cette recette, elle permet à tout le monde, hein, tout le monde, hein, de vidanger les vaisseaux sanguins, parce que c'est absolument important. Si nous avons des vaisseaux sanguins qui sont malades, c'est sûr pourquoi aujourd'hui vous allez voir que plusieurs, il y a des gens, ils ont des problèmes. Ils ont mal à la poitrine, ils ont des douleurs au niveau de la jambe, ils sont essoufflés, ils montent un escalier, ils sont très essoufflés. Il y en a qui ont des vertiges, un certain nombre de symptômes. Sûrement qu'il y a trop de dépôts au niveau des vaisseaux sanguins, et il faut voir cela. C'est un article très important pour nous tous.
Un article très important, hein, pour nous tous. Gazelle, vous vous intéressez à un autre organe, et c'est les reins. Les reins, vous écrivez 3 super recettes pour la santé des reins.
Les reins, c'est très important. Je crois, le 10 mars dernier, c'était la journée mondiale des reins. Et c'est vrai que souvent ces journées passent inaperçues dans nos pays. Or, c'est très important. Les maladies rénales, actuellement, ça se pose avec acuité. De plus en plus de personnes tombent malheureusement dans au niveau de cette liste-là. Et on sait que les plateaux techniques dans nos pays, ce n'est pas toujours évident. D'où il faut faire la prévention. Et cet article, c'est dans ce sens-là. Quelles sont ces recettes-là qu'on doit faire à la maison pour assurer la santé des reins? Les reins, hein, qui filtrent le sang, qui débarrassent le sang des déchets et qui nous permettent d'uriner aussi. Donc, si vous avez des problèmes de reins, souvent, il y a 2 ou 3 signes. Hein. Vous urinez, ça mousse beaucoup, comme de la bière qui mousse. C'est très mauvais. Vous-même, quand vous voyez votre urine, quand ça mousse trop, allez consulter. Ou bien, vous avez des difficultés pour uriner. Alors, c'est comme il y a un blocage pour uriner. Et quand vous avez cela, allez consulter. Déjà, ces 2 signes doivent nous alerter à aller consulter. Ou bien, l'urine est aussi fréquente, hein, trop fréquente. Soit c'est un blocage, soit c'est la fréquence. Et pour ces signes, allez consulter. Pas d'automédication à la maison. Ce que nous proposons, ces recettes, c'est en prévention, c'est des thés, c'est l'alimentation qu'on peut faire à la maison pour entretenir nos organes, notamment les reins.
Voilà que c'est dit. Quand nous avons de ces problèmes ou de ces signes, il est très important quand même qu'on aille consulter
absolument,
un médecin.
Absolument.
Pas de l'automédication.
Pas du tout.
Voilà. Merci beaucoup, Gadiel. Alors, Gadiel, pour avoir votre journal en kiosque ce matin, Santé Éducation, quelles sont les conditions?
Allez-y en kiosque ou en pharmacie pour trouver le journal ou bien à télécharger sur notre site internet www.santéeducation.tg.
Gadiel, merci d'être passé alors dans cette émission. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous. Sans transition, comme nous parlons de santé, parlons également d'éducation, puisque c'est Santé Éducation, le journal bien sûr. Et je l'annonçais déjà en début alors d'émission, c'est-à-dire dans mes mots introductifs. Et hier, nous avons tous ensemble vu cette décision de la direction régionale de l'éducation du plateau Ouest, et cette décision qui exclut 43 élèves hein, pour qui sont coupables alors de grossesse hein, sur des élèves filles. On voit 43 élèves, bien sûr, mais c'est d'autres élèves également sur d'autres sur le territoire national. Sylvestre, je ne sais pas comment vous avez accueilli cette information. C'est vrai que ça fait tellement débat hein, ces jours-ci sur les plateformes.
Non, je crois qu'il se pose aujourd'hui un problème d'éducation nationale hein, au Togo, parce que vous savez, il fut un moment. Ce ministère-là, c'est le ministère de l'enseignement et de l'éducation nationale. Aujourd'hui, j'ai l'impression que nous perdons la main au niveau de l'éducation nationale, puisque les actes auxquels donc ça donne nos jeunes frères dans les lycées et collèges, tout cela sort de l'entendement. Lorsque le papa se bat, hein, vous pouvez trouver donc votre agent de poche, le petit déjeuner, tout ça. Vous ne pensez que par le bas de votre ceinture. Et donc, ces jeunes-là qui ont enceinté d'autres élèves filles, notamment à Déta, à Badou et puis à Palimé, je veux dire, oui, il y a une décision qui est sortie. Ces élèves pères ont été exclus de la région des plateaux. Ça veut dire qu'il y a une possibilité d'aller dans d'autres régions pour s'inscrire, notamment ceux qui sont en classe des armées, comme en terminale, en première ou autre, ils peuvent sortir de la zone et aller s'inscrire ailleurs. Mais depuis hier, je me pose mille et une questions. Quelle est donc la décision qui est prise contre donc ces jeunes filles-là qui, au lieu donc d'ouvrir les cahiers et les livres, ouvrent leurs jambes?
Puisque la responsabilité doit être partagée.
Je crois que la responsabilité doit être partagée parce que, jusqu'à preuve de contraire, on ne parle pas de viol. Ce sont des relations consentantes. Donc, si aujourd'hui, deux personnes qui sont en faute et la décision qui tombe pour l'heure, puisque les choses peuvent évoluer aussi dans les prochaines, la décision qui tombe pour l'heure, c'est que c'est les garçons sont exclus de la région des plateaux. Quelle est la décision quelle est la sanction contre les filles?
Sur ce point, est-ce que les filles n'ont pas ne subissent pas déjà l'effet alors de cette grossesse jusqu'à terme, bien sûr, hein, de telle enseigne que finalement il ne faut plus rajouter quand même d'autres sanctions?
Écoutez, les garçons également subissent l'effet. Vous savez, c'est vrai
que... Non, écoutez, la grossesse.
Non, écoutez, la dame va porter la grossesse pendant 9 mois. Pendant ce temps, ces élèves parents iront donc se chercher. Ne serait-ce que pour assurer donc la consultation prénatale. Mais il faut trouver les moyens pour leur future femme. Il faut trouver des moyens. Donc, il ira se grouiller, hein, aller donc faire tout ce qu'il le trouve. C'est pour, peut-être que c'est pour cette raison-là qu'on leur a... donner donc un congé, c'est pas on leur a donné un congé d'aller se chercher, congé de paternité, ne serait-ce pour aller se chercher et donc nourrir convenablement donc leur future femme ou leur épouse. Mais je crois que la situation est véritablement dramatique, puisque au-delà de la région des plateaux, il y a déjà une capsule vidéo qui circule où on parle donc de Agido Gomme 1, où on parle déjà donc de 17 grossesses aussi. Donc ça veut dire que ce n'est pas uniquement dans la région des patrons.
Il semble que c'est la classe de première qui bat le
qui,
record.
Qui bat le record au niveau d'Aïdo Gomme 1 qui bat le record. Et la nouveauté ou le I qui est à ce niveau-là, c'est que il y a une fille qui est en classe de 4e, qui a 14 ans et qui est également enceinte. Vous voyez, donc je crois qu'il se pose un problème donc, d'éducation nationale ou d'éducation au niveau des parents. Parce que lorsque vous laissez les enfants à eux-mêmes, il n'y a pas une rigueur au niveau donc, de l'éducation. Je crois que c'est les conséquences. C'est ce que ça engendre également comme conséquence. Et là, c'est la nation qui subit. C'est la nation qui subit parce que ces jeunes-là, qui peut-être certains, peut-être qu'ils ne reviendront plus. Ils ne reviendront plus donc au cours ou en classe. Voilà quoi, c'est un gâchis. D'accord. Maintenant, tel que je le dis, peut-être je finis par là. Les filles, on en fait quoi? Parce qu'elles autres aussi, au lieu d'ouvrir les cahiers, les livres, ouvrent leurs jambes. On fait quoi?
D'accord, oui. Abbas, c'est vrai que la vidéo, l'extrait de vidéo que nous avons tous ensemble suivi sur les réseaux sociaux concernant Aïdo Gomme 1, mais on écoute un monsieur, sûrement que ça doit être un enseignant ou on ne sait pas trop, et qui donnait même les chiffres concernant cette grossesse en milieu scolaire pour les moins de 5 mois hein, que les 16 élèves alors viennent de passer. C'est pratiquement 17 grossesses. Et on écoute quand on donne ces chiffres, c'est les élèves qui
applaudissent.
Est-ce que il n'y a pas une question alors de prise de conscience?
Oui, c'est une question de prise de conscience et d'éducation. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Lorsqu'on dit que pourquoi on ne prend pas les sanctions pour les filles? Les filles sont déjà sanctionnées parce qu'elles ne pourront plus continuer pendant 9 mois leur scolarité. Quand vous les prenez, vous dites que on a enceinté, on laisse. La fille ne peut plus continuer et puis le garçon poursuit son cursus scolaire. Alors qu'on dit qu'on doit protéger la jeune fille. Et aujourd'hui, c'est cette jeune fille-là qui est mise dans des difficultés. Avant, c'était le professeur. Et on avait pris une loi pour dire que tout professeur qui se permettrait d'enceinter une fille serait exclu. En ce moment-là, on ne parle même pas des élèves. Aujourd'hui, c'est le cas des élèves qui est arrivé. Et quand vous prenez par rapport à ces élèves, on parle de la prise de conscience aujourd'hui. Lorsque vous voyez les élèves passer dans la rue, lorsqu'ils sortent même de l'école à midi ou à 17h, vous ne voyez pas comment ils se tiennent bras dessus, en allant. Et ils jouent même. Et vous allez voir même des élèves qui boivent les boissons énergétiques. Boisson énergisante qu'ils amènent même à l'école.
Vodka et bachana.
Ah bon, c'est ça. Donc, ils amènent ça à l'école, ils boivent. Et à la fin, lorsque les gens, ils prennent même la drogue, ils se droguent, tout ça là. Et finalement, c'est ces gens de choses-là qui les transforment. Et ils vont, surtout les provocations par-ci, par-là, les tentations par-ci, par-là, ça les prend. Et dans tous ces sens-là, les élèves perdent conscience et ils s'en vont, ils font. Pour le moment, on n'a pas encore une loi qui interdit aux enfants, comme ce fut le cas pour les enseignants. Il faudrait qu'on prenne une loi dans ce sens. Aujourd'hui, c'est la direction régionale du plateau ouest qui a pris cette décision. Dans tous les établissements sur le territoire, il y en a de ces genres de situations qui se présentent. Il y a beaucoup d'établissements, on peut voir ça, parce qu'aujourd'hui, c'est Plateau Ouest qui a été déclaré, qu'on a dit que c'est là-bas. La vidéo qui a circulé, c'est à Dogoumen. Est-ce que les gens ne savent pas que ça se passe à Dogoumen? Est-ce que la direction régionale de Agoué, ou bien comment on appelle, a réagi? Jusqu'à présent, avec la vidéo qui circule, il faut faire des enquêtes, voir que ce soit dans tous les établissements, dans tous les lycées. Il y a ces gens d'histoire. Quand vous prenez les sanctions, on a cité les classes qui sont concernées. Classe de 6e, 4e, 5e, 5e, 4e, 3e, terminale. L'enfant de 6e, il a quel âge pour avoir aussi une grossesse? En tant que nous avons appris même qu'il y a dans la même préfecture, dans la même localité, dans la zone de Plateau Ouest, dans un village vers Dany, là-bas, à l'État, on retrouve même à l'école primaire des filles mères. La fille, la maman est au CM1, au CM2 et l'enfant est au CP1, au CP2.
Ça existe, ça va.
Ça a existé. Je ne sais pas si aujourd'hui ça. Et on, je peux citer même le village dans le vers le Garan. C'est un village qui fait frais là-bas. Il fait très frais là-bas. Vers à Deta, au fond là-bas.
Akouma.
Donc, hein?
Akouma.
Non, pas Akouma, c'est Ahlon.
Ahlon, ah
oui.
C'est l'ancien premier ministre à Doboli.
À Doboli, oui.
Oui. Donc, c'est comme ça. Il faudrait, c'est le manque, comme Sylvestre l'a dit, c'est l'éducation. Aujourd'hui, on n'a plus le ministère de l'éducation. On a le ministère des enseignements primaires et secondaires. Or, avant, on avait le ministère de l'éducation et de l'enseignement. Il faudrait qu'on ramène ça. Et l'éducation, ça permet même de donner des corrections aux enfants. Lorsque l'enfant quitte la maison, son parent l'éduque, il ne veut pas écouter. À l'école, on pourrait aussi l'éduquer de façon normale, parce que l'éducation se passe dans la maison et à l'école. C'est pour cela que les gens envoient les enfants. Aujourd'hui, tu peux trouver même des enfants. Lorsque tu lui donnes, va payer, parce qu'il est en terminale ou en primaire, tu es au lycée, va payer tes frais de scolarité pour qu'on ne te renvoie pas. L'enfant prend l'argent, il bouffe, il fait ce qu'il le fait. Et après, on vient. Toi, tu ne sais pas qu'il n'a pas payé. Mais après, c'est quand on le met dehors que tu vas apprendre qu'il n'a pas payé les frais de scolarité. Il a pris ça pour en faire quoi?
D'accord. Merci beaucoup, Abbas. Oui, Jusin, c'est vrai que quand la décision est sortie hier dans l'opinion, sur les plateformes, il y a des gens quand même qui, certains qui accusent également la direction que mais cette sanction n'apporte pas quand même la solution à ce problème. Et quand on vient sanctionner, c'est aussi l'avenir alors de ces jeunes garçons, bien sûr, qui est à craindre, puisque avec l'exclusion, ils ne vont plus continuer leur étude.
Oui, je crois que le problème auquel nous sommes tous face aujourd'hui doit nous interpeller. Hein. Doit interpeller la conscience collective, en premier lieu les gouvernants. C'est vrai que ce phénomène prend tellement de l'ampleur qu'aujourd'hui on en parle. Surtout avec la question des réseaux sociaux, tout ce qui se passe dans les coins les plus reculés très rapidement est informé ou est suivi. Dans la capitale ou pratiquement dans le monde. Ça existait. Nos frères, je dirais même nos papas, dans le temps, lorsqu'ils étaient sur les bancs, donc ont eu également posé ces genres d'actes. Sauf que ça n'a pas tellement pris de dimension comme ça s'observe aujourd'hui.
Aujourd'hui, ça prend plus d'ampleur.
Ça prend tellement plus d'ampleur. C'est là où je dis que ça doit interpeller la conscience collective, en premier lieu les gouvernants, puisque il revient à eux de donner l'orientation du pays. Donc, sans les élèves, je pense que le pays n'a pas d'avenir, le pays n'a pas de futur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe que nous sommes arrivés à ce stade? Je pense que c'est là où on doit quand même s'interroger. Et c'est là également où je dis que lorsqu'on veut insérer dans la notion ou dans le curricula où on enlève l'éducation, ça pose de véritables problèmes. Progressivement, on donne l'impression que l'éducation maintenant incombe aux parents. Mais vu la situation dans laquelle nous sommes tous au pays, surtout lorsque vous allez dans les coins les plus reculés, c'est difficile pour les parents d'aider les enfants à jouer debout. Ceux qui sont un peu nantis, entre guillemets, arrivent à aider ceux-là qui sont pauvres. C'est dans ces genres de phénomènes-là qu'on observe, des relations, des pratiques entre les élèves. Certaines filles qui n'ont pas de moyens se donnent très rapidement, et bien que l'âge requis ne permet pas quand même d'adopter ce genre de comportement. Maintenant, ça prend de l'ampleur. Nous sommes arrivés à un moment où maintenant on commence par sanctionner. Est-ce que c'est la sanction qui doit quand même nous aider? Je ne pense pas. Je pense plutôt qu'on doit quand même conscientiser ces élèves-là, leur parler, leur sensibiliser, leur donner la bonne information par rapport à tout ce qui a trait à la sexualité.
Mais est-ce qu'ils ne savent pas que ce qu'ils sont en train de faire est déjà mal?
Non, je ne le pense pas. Parce que quand nous suivons tout à l'heure la vidéo, on donne le nom des élèves ou la classe où il y a plus de je sais pas, ou la classe qui a occupé la première place en la matière. Voilà, les enfants se donnent à quoi joie. Ils applaudissent. Ça veut dire que quelque part, ils n'ont pas conscience de l'acte qui est posé réellement. Et toi, tu vas à l'école, tu tombes enceinte en tant que fille. Ça voudrait dire que c'est ton avenir qui est gâché. Toi, garçon, en réalité, qui doit être concentré sur tes études, tu enceintes une fille. Maintenant, la pression parentale aussi est là. La pression également de la famille de la fille et chez qui tu as posé l'acte. Automatiquement, je pense que tu ne peux pas avoir pratiquement toutes les raisons possibles pour étudier. Donc, c'est là aujourd'hui que c'est une question de prise de conscience. Les enfants, moi, à mon avis, aujourd'hui, ne sont plus conscients. Ils sont plus conscients. Abbas l'a dit tout à l'heure. Vous les voyez au sortir de l'école, la façon dont ils s'embrassent, la façon dont, quand ils trouvent des opportunités de poser l'acte sexuel, vous allez vous interpeller. Maintenant, au même moment, c'était pas avant où, quand vous voyez un élève comme ça, en tant que parent, vous pouvez intervenir. On vous dira que c'est un enfant d'autrui, vous n'avez pas le droit. Donc, c'est autant de problèmes aujourd'hui qui gangrènent notre société, qui m'amènent à moi, à mon sens, pour dire, progressivement, nous allons vers la déperdition. Il revient à ces gouvernants-là de prendre conscience, de donner une orientation qui impacte véritablement la société, de ce que nous pouvons avoir demain ou après-demain, soit quand même une bonne éducation pour la société, pour que notre société puisse quand même grandir.
Esaïe, c'est vrai qu'on évoque la question alors d'éducation, mais aujourd'hui, c'est vrai, entre-temps, il y a Abbas qui évoquait aussi ces boissons énergisantes que les jeunes consomment aujourd'hui. Il y a même la drogue qui n'est pas aussi loin des établissements scolaires. Et quand on consomme d'ailleurs ces stupéfiants, automatiquement, allez, on a l'impression alors d'aller vers le cesse et rapidement, le dégât est causé, c'est là où nous en sommes.
Oui, je crois que Justin a touché du point, enfin, tu vois le problème. Aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que vous ne pouvez pas intervenir quand il s'agit de l'enfant d'autrui. C'est ce qui pose le problème aujourd'hui.
Puisqu'on parle plus alors des droits des enfants.
Justement, et dans les écoles aussi, il y a cette réalité où il est strictement interdit d'utiliser le bâton. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, tout se résume à la parole, il faut parler aux enfants. Mais reste à savoir comment est-ce qu'il faut parler aux enfants pour que les enfants comprennent. C'est là aussi le problème. Et en dehors de cela, il y a aussi cette réalité. Est-ce que ce soit les parents ou les enseignants, est-ce qu'ils prennent le temps quand même de parler aux enfants, d'éduquer les enfants sur cet aspect-là? Parce que, en tout cas, moi, je suis convaincu que ces enfants qui ont posé, ces élèves qui ont posé ces actes-là, sûrement qu'ils ne savent pas que, voilà, ça va, qu'il y aura des conséquences que là où nous en sommes aujourd'hui. En dehors de ces conséquences, ils ne savaient même pas qu'ils seront exclus de leurs établissements. Du coup, ce que ces enfants ont fait, bon, c'est juste pour eux un jeu d'enfants, parce que en amont, il n'y a personne qui puisse leur dire, voilà, écoutez, quand vous faites ceci, voilà les conséquences. Ça fait que c'est comme si les enfants sont un peu, pas un peu, je dirais, laissés à eux-mêmes. D'ailleurs, il y a les parents qui se cherchent, vu la situation économique du pays, les parents sont plus concentrés à chercher de l'argent. Ça fait qu'en termes d'éducation, on n'a plus assez de temps pour parler avec les enfants, discuter avec les enfants. Comment vous avez passé votre journée d'école aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des exercices ou pas? Les parents n'ont plus ce temps-là. Vous allez remarquer, même quand on convoque les parents d'élèves pour des rencontres à l'école, les parents n'y vont pas. Ils envoient les représentants. Ça fait que les parents ne savent même plus ce que font les enfants. Et aujourd'hui, tous les enfants ont les téléphones portables. C'est vrai que c'est interdit dans les écoles, mais allez voir si les enfants ne vont toujours pas à l'école avec les téléphones portables. Et on sait tous ce qui se trouve dans les téléphones de ces enfants. Donc tout cela réuni, on ne peut que se retrouver là où nous en sommes aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est que du moment où le constat a été fait, ces enfants ont été renvoyés de leurs établissements, la responsabilité revient maintenant aux autorités éducatives, bien sûr, de prendre les dispositions pour que demain on ne sorte plus une liste d'autres élèves qui auraient commis les mêmes actes. Si demain on sort encore une autre liste, c'est que les autorités éducatives ont échoué. Parce qu'il ne suffit pas de sortir une liste pour punir les gens et puis demain sortir encore, sortir. Non, il faut quand même amener les enfants.
Il faut rappeler quand même que ça, c'est au niveau de la région ou de la direction régionale de l'éducation de Plateau Ouest seulement, qu'il y a alors ces 43 élèves qui sont exclus.
Justement, raison pour laquelle les autres directions des autres régions doivent anticiper pour commencer l'éducation, sensibiliser les enfants sur le sujet pour que demain ne sorte plus d'autres listes.
D'accord. On va aborder un autre sujet. Non,
Il y a beaucoup de choses qui interviennent dans la dépétition des enfants aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Vous voyez, aujourd'hui, avec les téléphones, les TikTok, les films et les pornographies et les séries que les enfants suivent, ils veulent mettre ça en application. Ils veulent ce qu'ils voient dans le film, dans les séries, ils veulent mettre ça en application à l'école. Et les enfants ont perdu toute conscience. Quand leurs parents les ont envoyés à l'école, les parents dépensent pour t'acheter leur fourniture scolaire. Ils dépensent pour aller t'inscrire. Ils dépensent pour te faire des scolarités qui coûtent beaucoup cher. Toi, un enfant, tu ne penses pas à ça. Ce que tu penses, c'est d'aller faire ce que tu vois dans les séries, appliquer ça. Alors que souvent, quand ce qui se passe dans les séries, dans les films et dans les TikTok, on vous dit, n'essayez pas de faire ça parce que ne faites pas ça chez vous. Mais les enfants ne comprennent pas.
D'accord.
Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'éducation qui manque.
Ok, d'accord. Merci beaucoup, Abbas. On va quitter le sujet. On va s'intéresser à ce bras de fer entre la mairie du Golfe 1 et les propriétaires d'installations au niveau même de la lagune de Baie, l'endroit que nous appelons d'habitude Baie Beach. C'est vrai, depuis un temps, il y a eu une mise en demeure qui a été notifiée aux propriétaires alors de ces installations, c'est-à-dire les bars, les restaurants qui sont autour alors de la lagune. Et on leur a signifié alors de quitter les lieux. Et aujourd'hui, c'est mercredi, bien sûr, mercredi 12, c'est la date butoir où on va commencer même d'ailleurs par démolir même d'ailleurs ces différentes installations. Mais toujours est-il que, Justin, quand on prend aujourd'hui ces propriétaires disent, mais il est très important qu'on leur dédommage par rapport à ce qu'ils ont investi pratiquement pendant 15 ans.
Oui, tout à fait, parce que le problème que vous venez de vous évoquer là pose un problème de principe. Principe en ce sens que dans un premier temps, il y a le volet qui a conduit à ce que les occupants soient là aujourd'hui. Et quand vous interrogez les acteurs concernés, ils vous diront que ça date de 2007, au moment où Feu Nujo Ninevi était le président du développement de Baie. Donc la zone qui était une zone marécageuse, insalubre, est habitée par les bandits qui dépouillaient les passants et tout et tout. Donc il était question maintenant d'aménager l'endroit d'où certains ont été sollicités en la personne de Tegui Dagban et d'autres personnes. Donc ils sont des autochtones, puisque c'est la communauté Baie. Donc quand vous prenez pratiquement ce site lagunaire de Baie côté est, vous allez comprendre que le besoin était tellement qu'il faut véritablement aménager. C'est ce qui a été fait. Et les occupants qui ont été sollicités, à la personne de Togbi Dagban et autres qui ont été sollicités, ont jugé bon quand même d'apporter leur contribution. Donc c'était un prix jusqu'à 300 mètres. Et d'où les travaux ont été faits. Maintenant, une fois terminé, l'aménagement terminé, donc beaucoup ont installé leur profession sur le site. Bon, ils ne commençaient pas à payer au temps de la délégation spéciale. Et par après, c'était la mairie. Et que certains payent jusqu'à 200 000 francs l'année.
En termes de redevances.
En termes de redevances, pratiquement, c'est une question de contrat tacite qui est là. Même si ce n'est pas écrit noir sur blanc. Et certains qui payaient 240 000 francs. Par exemple, ce que Tegui Dagma payait 240 000 francs par an, avec l'arrivée de nouvelles autorités, notamment la commune mairie, c'est 600 000 francs par an qui est payé. Donc, les gens ont pris le temps maintenant de faire des investissements. D'où le problème de la société qui se pose. Maintenant, lorsqu'il était question aujourd'hui sur la base d'un projet qu'on invente.
On parle de projet d'utilité publique.
Public. Sans que le projet ne soit quand même exposé. La communication a manqué, la sensibilisation. Associer les acteurs afin qu'ils soient quand même imprégnés de ce projet-là, ça n'a pas été le cas. Maintenant, du jour au lendemain, on vient les sommer pour dire ben, vous allez vous déguerpir dans l'intervalle de moins de 3 mois ou de 3 mois. Alors que quand vous prenez la loi de l'OADA, dispose que lorsque vous avez un contrat avec un partenaire sur un site ou sur un lieu qui vous appartient, puisqu'à un moment donné, la commune de Golfe 1 estimait que cette propriété-là le revenait. Bon, vous devez quand même respecter la loi qui impose le délai de 6 mois n'a pas été respecté. C'est dans ces bois-là que spontanément, on estime que maintenant le délai est parti. Et le vendredi dernier, on a commencé par casser, c'est pas démolir tout ce qui est bien sûr des gens sur le terrain, alors que les gens ont investi des millions. Vous prenez l'endroit où Togbi Dagba occupait là, je sais pas comment c'est là, moi je dis que lorsque le tribunal était saisi, le procès va se tenir le 18 au niveau du tribunal de commerce. Mais là, il va falloir que les autorités également de la commune, notamment le maire de la commune et le même ministre, comment on l'appelle, Gomaro Kombi, puissent quand même attendre la justice se prononcer. Parce que quand on estime que nous sommes dans un état de droit aujourd'hui, je ne pense pas qu'un ministre ou un maire est au-dessus de la justice. C'est la justice qui doit quand même apprécier si véritablement le délai qu'impose l'OADA en la matière est respecté ou non.
D'accord.
Ici, véritablement, on doit quand même dédommager ceux-là qui ont énormément investi sur le terrain et dans quelle mesure on peut quand même les accompagner. Et à défaut de tout ça, on impose une loi d'omerta sur les lieux. On commence pas à casser, on commence pas à expulser les gens. Et pendant également qu'au même moment où le chef canton de Baie estimait qu'il va rentrer en pourparler avec le même ministre, puisqu'ils sont tous de la même communauté Baie, mais on ne sait pas quel rôle joue le ministre réellement. D'accord. C'est là où l'interrogation est là.
D'accord, oui, mais c'est quand les occupants qui sont sommés alors de quitter les lieux demandent aujourd'hui qu'il y ait des dommages par rapport à leur investissement de 15 ans ou presque 15 ans, alors finalement, est-ce qu'ils n'ont pas raison aussi?
Oui, je crois que c'est un sujet complexe et donc il faut traiter ce sujet-là avec... beaucoup plus de tact et de délicatesse.
Complexe et sensible aussi.
Sensible. Parce que ça fait des années que les gens se sont installés là, notamment à Togbi Dagba et tout. Vous voyez, même du côté donc du centre communautaire de Belle, le côté opposé, il y a aussi des bars tout au long donc de la lagune. Et donc, venir un beau matin demander aux gens de déguerpir et tout ça, je crois qu'il faut respecter un certain nombre donc, de normes. Mais pas pour autant que lorsque le territoire appartient à la commune et qui veut véritablement faire un projet d'utilité publique, il revient également donc de mettre tous les moyens pour arriver à sa fin. Maintenant, quel est le projet que propose la commune? Je crois qu'il faut également insister là-dessus parce que vous savez, on était l'an dernier, on était dans ce pays, on nous dit qu'on doit dégager donc les abords donc de la capitale et tout ça, qu'il y a un projet. Ça a été fait. Mais après, les gens reviennent progressivement. Parce qu'il n'y a pas un projet derrière, ne serait-ce pour combler ce vide-là. Et la nature ayant horreur du vide, beaucoup reviennent progressivement. Oh, l'État a mis des moyens pour déguerpir donc les abords des boulevards et tout ça. Maintenant, quand la commune dit qu'il y a un projet, oui, sort le projet. Peut-être que cela pourrait avoir l'assentiment de ceux qui se sont déjà installés et voir comment est-ce que peut-être travailler avec la mairie, peut-être en partenariat. Voyez-vous, mais lorsqu'on vient, bon, nous avons un projet d'utilité publique, mais le bar qui est là, ce lieu-là, c'est un lieu reposant. C'est également un lieu d'utilité publique. Puisque vous passez, vous avez chaud, tout ça, vous pouvez vous accoster, prendre peut-être un pot et tout ça, pour reposer un peu et continuer. Donc ça veut dire que ça sert également à la communauté. C'est pourquoi je dis que ce sujet-là doit être traité avec beaucoup plus de tact. Et je souhaite que les deux parties se retrouvent véritablement pour causer. Sinon, aller par un forcing, cela n'amènera véritablement à rien. Parce que déjà, j'ai appris qu'il y a certains qui commencent à être dégagés et tout ça. Puisque selon les informations que Justin nous donnait tout à l'heure, déjà au temps de la délégation spéciale, le monsieur payait plus de 250 000 à la délégation spéciale. Ça a servi à l'État. Aujourd'hui, on nous parle donc de la commune et le monsieur paie déjà presque le double.
Oui, 500 000 par mois.
Le double. Voilà, ça c'est également l'État. Voyez-vous donc, quand on voit devant ce genre de situation, il faut beaucoup réfléchir, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'à chaque fois, on soit donc dans la logique donc de, du marteau. C'est-à-dire que quelqu'un qui a le marteau dans sa tête, à chaque fois qu'il circule, il cherche l'occasion de donner un coup pour l'enfoncer. Il faut sortir quand même de cette logique.
Alors, est-ce que vous avez l'impression que peut-être, c'est vrai que c'est un sujet sensible, un sujet délicat, est-ce que vous avez l'impression que ça a manqué un peu de tact dans la solution à trouver à ce problème?
Ouais, je dirais que c'est beaucoup plus sensible parce que c'est des gens qui occupent les lieux. Maintenant, moi, je veux qu'on passe sur quelle base le contrat a été signé. Parce que pour occuper un lieu public...
Mais s'il y a un contrat, il n'y aurait pas un contrat.
Bon, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire sur quelle base, si il y a un contrat au niveau de la mairie et que la mairie va prendre, percevoir de l'argent chez ces messieurs, c'est parce que il y a un contrat quelque part. Et dans le contrat, on va stipuler que vous pouvez occuper, mais lorsque l'État aura besoin de sa parcelle, vous allez partir. Et c'est à partir des discussions, parce que selon les règlements, c'est que si c'est un bail commercial qu'ils ont fait, au moins on donne 6 mois pour que la personne se prépare. Mais si c'est un bail simple, c'est 3 mois de préavis. Aujourd'hui, on a donné ici 3 mois aux gens quittés. Et lorsque ça traînait, il y a une rencontre entre le maire Gomado et les occupants de ces lieux. Les discussions ont eu lieu. Donc chacun a donné sa version et dit nous allons quitter. Mais le maire dit ils ont demandé une prorogation de ce délai. Et le maire a dit nous avons pris acte. Nous allons rendre compte à nos supérieurs. Et voir. Finalement, on n'a même pas encore rendu compte. Je ne sais pas. Et on commence par détruire les commerces des gens là-bas. Je pense qu'il y a une fois, un jour, cette situation s'est présentée avec la mairie Golf 4 et les occupants de la plage en face de l'hôtel Le Bénin.
Oui. Oui.
Cette situation a été aussi réglée de façon chose parce que quand vous louez quelque part, il faudrait savoir si c'est un contrat tacite. Si c'est un contrat tacite, parce qu'un jour ou l'autre, on peut vous venir vous dégager. Et si c'est dans un contrat écrit également, on vous mentionne que si l'État a besoin de cette parcelle, on va demander quitter. C'est valable sur tous les plans parce que nous avons vu des barres qui ont été dégagées parce qu'on veut tracer la voie, construire la route Lomé-Palémé et les gens ont été dégagés parce qu'ils ont déjà un contrat de plus de 15 mois avec la mairie. Et on est dit, venez. Tu peux négocier n'importe quoi, c'est que si le contrat n'est pas sur des bases solides et que la mairie, Sylvestre l'a dit, la mairie vient percevoir de l'argent. Cet argent contribue aussi au développement de la commune. C'est pour ça que je parle de la sensibilité de ce dossier.
Merci.
Et que entre les deux, ils vont beaucoup s'entendre pour trouver des solutions.
Justement, Esaïe, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas important quand même que les deux parties, bien sûr, trouvent un terrain d'entente pour mieux régler ce problème?
Oui, bien évidemment, c'est ce qui est conseillé. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a la pression des deux côtés. Je parle de la pression parce que, généralement, quand l'État s'engage dans ce genre d'initiative, c'est vrai, c'est parce qu'il y a un projet derrière. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne nous dit pas de quel projet il s'agit. C'était le cas d'ailleurs quand on avait renvoyé les occupants des emprises des voies publiques. Mais ce qu'il faut savoir là-bas, c'est que quoi? Généralement, quand il y a des projets qui sont prévus, l'État va auprès des bailleurs, notamment, c'est surtout la Banque mondiale qui pose ces conditions. Elle veut d'abord voir sur le terrain, est-ce que le terrain est prêt à accueillir le projet avant qu'il n'engage les financements. C'est ce qu'il a d'ailleurs fait entre-temps, quand on avait renvoyé les occupants des emprises des voies publiques. aujourd'hui, il y a aussi, il y a également ce au niveau de la commune Golf 1. Sûrement, il y a le projet, mais c'est là où le problème de communication se pose en fait. Parce qu'il faut amener les gens à comprendre que voilà, c'est parce que derrière, nous avons aussi nos partenaires qui nous mettent la pression. Parce que si l'État ne procède pas ainsi, les partenaires ne donneront pas le financement.
Donc c'est une pression.
C'est justement une pression. Mais au-delà de ça, généralement pour la plupart des projets, quand il y a des occupants, ils sont toujours dédommagés. Raison pour laquelle je pense que ces occupants qui demandent aujourd'hui le dédommagement ont raison. Il faut que l'État trouve un moyen justement de dédommager ces personnes-là. Parce que il y aura un financement D'accord. pour réaliser le projet. Et dans ce financement, il y a toujours une part qui est réservée pour les dédommagements.
D'accord. Alors, on parle du Golf 1. Restons toujours alors dans le Golf 1. Et c'est parce que vous écrivez, hein, vous vous intéressez au chantier abandonné alors dans la commune. Vous écrivez chantier en déshérence, drame et mort. Et vous écrivez Togo, les chefs-d'œuvre d'un régime défaillant.
Non, ça c'est ça.
C'est ça.
Oui, c'est les chefs d'un régime défaillant. Ça, je pense, de tout commentaire, parce que vous ne pouvez pas engager donc des projets d'aménagement donc des voies et plus de 4 ans après, patatras, hein, beaucoup de chantiers sont laissés, sont abandonnés et tout. Certains du fait que on doit dégager les réseaux peut-être de T2 ou de la suite pour continuer hein, les travaux, mais ils sont bloqués par ceux. Faute donc de moyens de financement. Lorsque vous voyez tout cela, véritablement, ça irrite. Ça irrite parce que nous avons bien fait donc de publier les images ce matin. Vous verrez qu'il y a une maison qui est là et tout autour de la maison, on a creusé. Il y a de gros trous. Imaginez que les occupants ou les habitants donc, de cette maison ont des véhicules. Mais ils font comment? Ils gardent les véhicules dehors. Et le lendemain, ils viennent, ils retrouvent les rétroviseurs, les pare-brise et tout. Où ils vont les laisser quelque part pour payer. Et après là, qui paye cette addition? Et nous avons même cité cet enfant-là qui est tombé, hein, donc
qui est décédé, tombé.
Donc, c'est pourquoi nous parlons de drame et de mort, qui est décédé, tombé donc dans un caniveau. Vous voyez, parce que le caniveau est laissé, le travail, les travaux sont laissés, le chantier abandonné. Les enfants, hein, s'amusant, donc, l'un est tombé et l'enfant est décédé. Qui endosse cette responsabilité? C'est l'État. Parce que c'est l'État qui est censé protéger la population et qui ne l'a pas fait. Vous voyez donc que devant toutes ces situations-là, et on ne dit rien dans le nouveau budget. Au lieu donc d'avoir une ligne pour terminer ces travaux, on ouvre d'autres chantiers. C'est ce qu'on fait. C'est, on va de chantier en chantier, de projet en projet, sans que les anciens ne soient véritablement finis. Ça, c'est vous savez, c'est peut-être qu'à des fins électoralistes, bientôt maintenant, on a il y a cette voie là qu'on va aménager tout ça, alors qu'il y a d'autres qui sont là qui ne sont jamais finis. Donc il faudrait véritablement qu'on puisse en parler, dénoncer ces gens donc de situation. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que vous avez dans ces quartiers là des gens qui ont loué des boutiques pour des commerces. Et donc, du fait de ces gros trous-là, la voie n'étant plus praticable, ils n'ont plus de clients. Mais au même moment...
Manque à gagner.
Ils n'ont plus de clients. Au même moment, ils doivent payer donc leurs bailleurs. Ils vont trouver les moyens où. À un moment donné, ils vont fermer. Voyez-vous, du fait donc de l'abandon de ces chantiers-là. Donc, il faut en parler pour que les gens puissent prendre conscience.
D'accord.
Ce truc-là, on peut en finir rapidement. S'il y a des fêtes inutiles dans ce pays, on peut faire économie et financer ces choses-là.
Je sais quand même que tout récemment, il y a la députée de la DMP, Madame Kafoui Brigitte Adamagbo Johnson, qui a visité.
Et il faut saluer cela aussi. Parce que c'est ce qu'on appelle donc le contrôle de l'action gouvernementale, ouais. puisqu'elle est donc à l'Assemblée nationale. Là, c'est l'État qui est interpellé. Donc, elle est allée visiter, elle a sillonné les chantiers, elle a vu la manière, elle a discuté avec ceux qui ils sont censés donc travailler sur le terrain.
D'accord.
Et donc,
d'accord,
elle va poser le débat à l'Assemblée nationale.
D'accord. D'accord. Voilà. Alors, Esaïe, vous vous intéressez à la politique, surtout à la mise en place à l'ordre du Sénat. Et au-delà de la mise en place à l'ordre du Sénat, vous posez la question ce matin à la une à l'ordre de votre journal, hein, Focus Info. Vous écrivez qui sera le président du Sénat?
Oui, c'est la question que nous nous sommes posés ce matin. Qui sera le président du Sénat? Et vous verrez sur la une que nous avons mis la photo de trois personnalités. Barry Moussa Baké, Dama Dramani et puis Joseph Kofi Kofigo. Voilà. et donc, ce sont, nous, en tout cas, nous, notre pronostic. Et c'est sur la base d'un certain nombre d'éléments. Si vous prenez Barké, par exemple, ça fait déjà 55 ans que Barry Moussa Barké travaille autour du régime. Il a d'abord travaillé avec le feu président Gnassingbé Yadema. Après, c'est avec le fils fort Gnassingbé. Donc, après 55 ans de travail avec ces personnes, on a vu qu'il fait partie, en tout cas, de ces rares personnalités qui, depuis qu'ils ont...
55 ans, vous dites?
Oui, mais bien sûr, c'est 55 ans.
Donc, il travaillait avant notre naissance.
Donc, si vous prenez, vous voyez, je disais tantôt, il est l'un des rares... en tout cas l'une des rares personnalités qui ont travaillé avec ce régime et qui n'a pas eu entre temps de conflit. On a vu d'autres qui ont travaillé avec le feu, notamment le feu Gnassingbé Yadema.
Mais il a été toujours infidèle.
Justement, il a été infidèle et quand vous loyal. Quand vous allez lire l'article, vous allez justement voir, nous avons titré en intertitre que c'est un homme loyal. Donc ouais. Étant loyal, on peut toutefois lui permettre de devenir président du Sénat. Quand nous prenons Dama Dramani aussi, c'est quelqu'un qui est expérimenté. Lui, il a une trentaine d'années autour du régime. Donc, il fait partie aussi des fidèles. Et donc, vu lui aussi sa fidélité avec le pouvoir en place, il peut toutefois avoir, en tout cas, le consentement du parti pour accéder à ce poste-là. Et enfin, c'est Joseph Kofigo. Vous savez, lui, aujourd'hui, en tout cas, de façon officielle, il n'a pas d'affiliation politique, mais il fait partie de ces personnes qui, on peut dire, des personnes ressources, qui ont une certaine expérience. On sait ce qu'il a fait dans le passé sur le plan politique. Aujourd'hui, on le voit plus sur des questions liées à la réconciliation. Donc, on estime que quand au sein du régime, il n'y aura pas d'entente, en tout cas, on peut miser sur Kofigo pour couper la poire en deux. Donc,
c'est juste les propositions que vous faites.
Justement.
Et là, on attend voir. Abbas, vous écrivez mise en place alors de la 5e République, le Togo bascule déjà vers un régime parlementaire. Et vous écrivez aussi les visages du premier Sénat togolais.
Oui, c'est le premier Sénat togolais qui a été mis en place. Les 61 membres de ce nouveau Sénat sont là. Ils ont tenu leur première session de droit le jeudi dernier. L'on ne s'attendait pas parce que jusqu'à la veille de cette session, les 20 personnalités qui devaient être nommées ne sont pas encore nommées. Et finalement, dans la soirée, on les a nommées à 15h le jeudi, à 15h, ils ont pu tenir leur session de droit. Finalement, tout est au complet actuellement pour démarrer le régime parlementaire.
Même la session de droit a été faite, bien sûr, le jeudi dernier.
Le jeudi dernier, oui. Mmh. Donc, tout a été mis au complet.
D'accord. Mais oui, Justin, c'est vrai que le Sénat est mis en place, mais il y a toujours des contestations au niveau alors de l'opposition.
Ouais, il y a toujours des contestations. Le chien aboie, la caravane passe. Nous sommes dans une logique d'imposition. Donc, une logique de la force. Et dans le cas des...
Mais il arrive un moment où le chien bondit. Dans la foule de la caravane.
Nous sommes dans une logique de la force qui démontre la suffisance qu'au-delà des contestations, au-delà de la position populaire, donc le régime s'inscrit dans une logique et c'est dans cette logique-là que nous sommes aujourd'hui. Je pense que les questions politiques aujourd'hui n'intéressent plus trop, mais les gens se posent des questions. Peut-être qu'au-delà de tout, c'est ce que Sylvestre a écrit qui m'intéresse. Parce que je vis bien dans la zone de baie, je vois ce qui se passe. Si on vit dans une commune, d'une telle commune, et qu'on se permet maintenant de détruire les voies durant des années, des accidents ici et là, les enfants tombent dans les trous, on n'arrive pas à trouver de solution, on parle de projet sur projet, et c'est dans cette même commune qu'on essaie de déguepir les gens au niveau de la plage, même problème, on parle de projet sans pourtant tenir compte de la situation sociale et de la situation environnementale de la zone. Moi, je pense que c'est autant d'éléments qui doivent quand même amener la population aujourd'hui non seulement à s'imprégner, à être informée, mais à s'indigner. Moi, parce que ce qui se passe dans la zone de Bay, moi, je ne peux pas comprendre que ça doit toujours continuer. Parce que c'est la seule commune aujourd'hui où on parle, on détruit, on parle de projet, on ne sait pas de quel projet on a et tout, mais la commune est dans cet état-là et on essaie d'imposer donc une voie de fait sur les gens. D'accord. Moi, je trouve que c'est anormal.
Merci beaucoup, cher confrère. Et maintenant, nous allons nous ouvrir à nos auditeurs, puisque c'est le moment qu'ils s'intéressent ou interviennent aussi dans le débat. C'est sur nos deux numéros, 90-86-35-35-91-36-63-75, et aussi sur notre numéro WhatsApp 90-45-78-57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5 Canal FM. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90-86-35-35-91-36-63-75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler, aussi réagir sur notre numéro WhatsApp 90-45-78-57. Premier auditeur en ligne, allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, M. Pascal.
Votre nom c'est?
C'est Mawena.
Ah, M. Mawena.
Dadi
Dogomé, allez-y.
Je salue le plateau.
Et le plateau aussi vous salue.
Je salue Justin et je lui souhaite ses anniversaires aussi. J'aime bien ses analyses. Il est parmi les journalistes qui sont cohérents dans leurs analyses. Je l'apprécie beaucoup. Je salue Sylvestre. Où ça a tenu de l'imam aujourd'hui? Je le salue. C'est un frère. Bon, on a vécu ensemble à Tikoumine. C'est un frère aussi. Je le salue.
D'accord. Mawena, ok.
Monsieur Pascal.
Oui, Mawena.
Moi, je ne comprends pas. Tous les chantiers que l'État a ouverts, il n'a pas encore fermé là. Est-ce qu'ils ont déjà réglé ce problème? Avant de s'attaquer au bar, ou à la plage, moi je ne comprends pas. Les chantiers qu'ils ont ouverts depuis, ils ont bloqué l'activité des gens, ils n'ont pas encore réglé ce problème. Mais là, ils attaquent au bar. Et il y a une chose, moi je ne comprends pas que la mairie a signé encore un contrat, comme quoi si l'État a besoin de. La mairie là, c'est quoi? C'est pas l'État. C'est parce que la mairie est différente de l'État. Je ne comprends pas quoi. Comment est-ce qu'une mairie peut signer un contrat soit disant que quand l'État aura besoin de ce passé ou bien de cet espace, il va l'arracher. Comment? C'est parce qu'on est fatigué dans ce pays. On a l'impression qu'ils sont à l'aise de dépouiller la population. Il s'agit des autres activités quoi. Si on voit une population vit dans un carré, ça leur fait plaisir quoi.
D'accord.
Franchement, ils n'ont qu'à régler ce problème. Franchement, ils n'ont qu'à laisser les balles à tranquille.
Mais merci.
Allez voir les chantiers qu'ils ont ouverts, ils n'ont jamais fermé.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher Mawena, 90-86-35-35. Allô?
Ah, bonjour, Pascal.
Oui, Basile, bonjour, comment vous allez?
Ah, c'est toujours dans le même ordre d'idée. Hein. Vous savez que l'attitude de va-t-en-guerre des autorités togolaises. Vous savez que monsieur le maire, le ministre, avait affiché ça. C'est ça même qu'il a fait. On l'a débauché de l'ANC pour amener là-bas. C'est les gens de Batanguay là. Sinon, qu'est-ce que ça là, comme ça, on fait? Il a dit la fois parce que les gens ont posé leurs doléances et il a compris. Il a compris, il a allé dire à ses chefs. Maintenant, c'est ce chef qui l'envoie d'aller casser les choses ou bien c'est comment. C'est là, c'est les attitudes battantes de ce qu'ils font. Ces endroits, comme c'est arrangé que les bandits ne peuvent plus venir se cacher là-bas, terroriser les gens, ils ne sont pas contents. Il faut qu'on ramène les lieux là encore pour que les bandits viennent faire de n'importe quoi. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire?
Les gens qui sont là-bas, là, c'est une activité qu'ils sont en train de mener. Où est le problème? Oh, c'est l'attitude va envers des autorités là. On dit constitution là, on vient, on vous impose. Hein, c'est ça qu'il est en train de faire.
Merci beaucoup, mon cher Basile, pour votre intervention. Rebonjour, monsieur Pascal. Merci beaucoup pour le travail que vous abattez. S'il vous plaît, j'avais posé la question l'autre fois, mais vous n'aviez pas eu le temps de me répondre. Je viens ce matin alors pour demander, est-ce que vous pouvez m'expliquer le sens ou les raisons qui ont motivé le choix du nombre de 61 sénateurs? C'est Edem. Merci Edem, on vous répondra tout de suite. 90 86 35 35 91 36 ou 315. Allô?
Oui.
Bonjour. Allô? Oui, bonjour Pélé.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Oui, je salue pas.
D'accord, allez-y.
Bon, je pense que pour le développement de notre place, je pense que nous avons toujours l'habitude de comparer les Togo et les Bénin par rapport aux travaux qui se passent. De l'autre côté, mais c'est la bonne chose qu'on veut répéter ici. Il n'y a pas de souci. Mais, sauf que, au Bénin, Patrice Talon, quand lui dit le fait, qu'il n'y a pas de projet qui est là, qu'on attend, tout à l'heure, M. Sylvestre vient de dire ce qui s'est passé, la tenue de Mme Yamazo, la DMP, la fois dernière, 14 km pour 4 ans, sans effectuer, qui n'ont même pas effectué la moitié de ça. Alors que la population est en train de souffrir là-bas. On n'a pas encore regardé là-bas. Maintenant, s'il faut revenir pour dire que tout ce dépistement-là, moi, ce qui m'inquiète, c'est que M. Boumado était de l'ANC. Et quand nous prenions aujourd'hui GOF 1, GOF 6, GOF 4, les 4 sont des limitrophes. Pourquoi dépister pour GOF 1 seulement et laisser GOF 6 et GOF 4? C'est-à-dire, on veut embellir seulement GOF 1 là-bas et laisser les autres. C'est-à-dire, cette politique-là doit être une politique du pouvoir central. Moi, j'ai l'habitude de le dire. Pour le dégâtissement de ce genre de choses, ce n'est pas de la compétence. Il faut donner cette compétence-là à nos maires. Ils ne vont pas le faire parce qu'ils ont peur.
D'accord.
D'être élu prochainement.
D'accord. Merci. Oui, mais merci beaucoup, Pélé, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont en ligne. On va leur donner aussi la parole. Bonjour. La décision prise à l'égard des élèves exclus est non-sens, puisque la faute totale est aux parents. Et tel que Sivesque l'a dit, ce n'est pas un viol, plutôt des relations consentantes sur un long temps avec plusieurs rapports sexuels qui ont conduit à ces grossesses. Nos jeunes enfants sont plus occupés par la vie sexuelle que leur étude. Ces filles savent le risque qui est lié à ces comportements sexuels. Elles ont fait leur choix. Chaque parent n'a qu'à jouer sa part en termes d'éducation de son enfant. C'est Ibrahim qui nous écrit. Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Allô. Oui, bonjour, madame. Allô. Ici.
Ah, d'accord. Je ne savais pas si c'est moi.
Oui, vous y êtes.
Bonjour à tout le monde. Et comme j'ai pensé à Alpha hier, je lui fais un coucou encore. Et à ça, c'est à Modeste et tout le monde. Bon, voilà. Moi, je vais dire là, on a droit à quoi dans ce Togo? On a droit à quoi? On n'a droit à rien, mes frères. On n'a pas le droit de travailler. On n'a pas le droit de gouverner. On n'a pas le droit de faire du commerce, de rien faire. Les marchés sont brûlés. On a emprunté pour construire des conteneurs. Ils sont partis, les détruits nous ont dit, et s'élever un peu, on est parti détruire ça. Maintenant, les bars, qui veulent déguerpir là, ça va leur apporter quoi? Hein? Ils vont faire quoi avec ces places-là? On n'a pas le droit de travailler pour vivre bien comme eux.
Madame Essie.
Franchement, et ils n'ont pas créé d'emploi non plus.
Allô, madame
Essie. Il n'y a que des médias soldats et gardiens, et balayeurs de rue. Ils n'ont pas créé d'emploi après 62 ans de gouvernance affreuse. C'est pas normal. C'est pas normal. Les enfants sont en dépravation. Ça tombe enceinte et tout en deux ans. C'est pas de la non-assermance. C'est la dictature qui fait ça. Les gens n'ont pas à comprendre qu'ils doivent passer la main.
La dépravation au niveau des enfants aussi.
C'est la dépravation,
avec...
oui, c'est la non-assermance qui engendre la misère, non? la précarité ambiante.
D'accord. Madame Essie, merci beaucoup. On donne la parole aussi à d'autres personnes. Allô?
Oui, grand frère, bonsoir.
Bonsoir. Benoît, comment vous allez?
Je vais bien, chez vous?
Ça va, c'est Benoît Dagoué.
Oui.
D'accord, allez-y.
Je salue tout le monde au plateau, surtout celui qui fête son anniversaire aujourd'hui.
C'est Justin.
Moi, je vais dire... la grossesse des élèves, là, c'est, comme on le dit, c'est la faute aux parents. Est-ce que le parent même a reçu une bonne éducation? Est-ce que le parent fait le devoir d'un parent? Est-ce qu'il a eu une base avant de se marier, avoir l'enfant et mettre l'enfant à l'école? Est-ce qu'il fait ses devoirs, ses obligations? Comment entretenir? Le fait de lui dire que, bon, et 60 ans, c'est le président de la République. Nous avons passé notre temps à dire que ce régime est mauvais, le régime est mauvais, le président pourra faire ceci, le bon après cela. Au lieu de s'asseoir, discuter l'avenir de nous les Togolais, le chef de l'État, disait tant de choses que quand je prends le téléphone, je n'arrive plus à parler. Donc,
peut-être que c'est, donné, c'est l'émotion.
Comment on dit ça, ma? Devant le fait quoi?
Le fait accompli, vous voulez dire.
Voilà, le fait accompli. Le fait de dégager les gens. Il y a tant de choses. Le président n'a pas fait une route, une autoroute, là. Comme il a dit, on dit que le président a nommé 10 femmes, qu'il a l'acte à la parole. Il n'a pas fait l'autoroute. C'est le fait de. Les gens ne savent pas la souffrance pour faire une pièce, une baraque, combien ça coûte pour un Togolais. Merci, bonjour.
D'accord, merci Benoît. Et Benoît, nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur en ligne. Grossesse en milieu scolaire. La jeunesse togolaise n'a plus aucun espoir et cela se justifie par leur comportement. On n'a plus alors d'idéal commun ni de référence publique. La jeunesse est sacrifiée et ne fait pas partie des préoccupations du pouvoir en place. Leurs enfants sont tous en Europe pour des études ou leurs études et rentreront très bientôt pour gouverner cette jeunesse démunie. Triste sort, c'est Maglibé qui nous écrit depuis la Belgique. 90 86 35 35 91 36 63 115. Allô?
Allô?
Oui,
bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Et c'est Waris qui nous appelle depuis Azan.
Voilà, Waris, allez-y.
Oui, bon. Et tout d'abord, je salue vos honorables invités. En fait, bon, c'est concernant ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la FLASH. Nous avons eu à écouter le maire et le ministre Tomato. Bon, ce que nous posons aujourd'hui comme question, est-ce que l'État est aujourd'hui, après avoir renvoyé ses usagers de la FLASH, l'État est prêt aujourd'hui de en faire quelque chose là-bas? C'est ce que nous regrettons chaque fois dans ce pays. Bon, on chasse des thèmes, hein? Et bon, on chasse les gens, et après tout, ça devient un ghetto. Vous voyez? Bon, et l'État aussi doit savoir que, nous aussi, nous avons qu'est-ce qui est notre santé. Puisque il y a une question, je peux vous la poser. Appartient à l'État.
Mais
Waris.
Vous avez la réponse. Oui, vous avez la réponse. Vous avez la réponse à cette question, puisque quand on parle de terre chez nous au Togo, c'est les collectivités. Merci beaucoup, Waris. Et je lis cette dernière réaction d'un auditeur qui nous écoute alors depuis le Bénin. Bonjour Pascal, merci pour le décryptage. Il faut dire que les responsables de l'éducation ont simplement démissionné. Primo, ces responsables n'ont pas leurs enfants dans ces écoles-là. Secondo, une minorité d'artistes justice inconscient prône la dépravation notoire dans les champs et clips. Quelles sanctions mettent ces responsables en charge? Et au Bénin, ces enfants ne se seront pas renvoyés, mais suivis alors de près. Les parents font de leur mieux, ne vous y trompez pas. C'est Aristide Abidjo qui nous écoute alors depuis la capitale béninoise, à Cotonou, bien sûr. Chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table et mettre fin à l'émission de ce jour. Cher ami Sylvestre.
Non, écoutez, nous avons beaucoup évoqué le sujet concernant les enfants, les élèves pères et puis les élèves mères ou bientôt mères. Donc voilà, il faudrait quand même que tout le monde puisse prendre conscience de la situation, que les autres établissements puissent déjà anticiper. Il faut, je ne sais pas si ça se fait encore au niveau des lycées. Moi, je l'ai fait jusqu'au lycée. Les matins, vous êtes au Mans, on vous parle, on vous donne, donc on produit des conseils et tout. Je ne sais pas si ça se fait encore.
Ça se fait où? On ne monte plus les drapeaux.
On ne monte plus les drapeaux. Il y a même des élèves d'un lycée, je préfère taire le nom, des élèves qui sont en classe de première et qui ne savent même pas chanter l'hymne national ici, dans la capitale. Ils ne savent pas chanter l'hymne national. Donc, le constat a été fait. Il y a quelques jours, il y a des dispositions qui ont été prises. Maintenant, chaque lundi du mois, ils vont au Mans pour chanter l'hymne national et tout. Vous savez, l'élève dont je parle, quand il s'agit donc de leur classe, il était super motivé, il va relire donc les termes de l'hymne national. Vous voyez que ça devient, que c'est comme si ça devient une corvée. Alors, ça devait être naturel. Donc voilà tout ça là. Il faudrait véritablement que les parents puissent regarder là-dedans. Donc je voulais finir par, si vous le permettez, par un article de notre parution ce matin, ce qui concerne donc
le journal La Machette.
La Apulsia. Ah, bientôt, oui. Lis-moi le titre.
Oui, mais vous écrivez, bien sûr. Vous écrivez bientôt Miss Apulsia.
Ah oui, justement, c'est le titre. Là. Bientôt Miss Apulsia. Parce que je me dis, l'institution est là. Mais ça peine donc à évoluer sur sa mission première. Et donc, se concentre donc de petits projets. La dernière fois, ils ont fait une caravane, ils ont circulé dans la ville pour sensibiliser les Togolais sur la corruption. Au même moment, ils demandent aux Togolais de dénoncer les actes de corruption. Or, les Togolais ont toujours dénoncé la CAN 2013 et la CAN 2017. Ils sont là, ils ne font rien. Après, la dernière fois, ils ont organisé un concours de production médiatique et tout ça. Les résultats ont été accouchés par césarienne. La dernière fois, on a eu à Plusia du côté donc des femmes pour 10 journées internationales du droit des femmes à Plusia là. Finalement, les gens, quand tout vous lâche, accrochez-vous à l'essentiel. Donc, ils sont dans de petits projets juste pour exister dans la masse. Donc, nous sommes dit bientôt, ils vont organiser donc Miss à Plusia, peut-être contre la corruption, ou peut-être organiser un concours de pétanque ou de tir à l'arc. Ou je ne sais pas où, de rubis, je ne sais pas où, de karaoké.
D'accord.
Donc, ne serait-ce que...
On attend voir. Rapidement, Esaïe, vous avez 30 secondes.
Non, je vais revenir sur cette histoire de ce problème de la plage. Je crois que les autorités doivent prendre les dispositions parce que un auditeur l'a évoqué. On va renvoyer les gens, ceux qui travaillent là-bas. Est-ce que l'État est en mesure de créer l'emploi pour ces personnes? Parce que vous savez, dans la politique gouvernementale, on évoque tout le temps la création de l'emploi. Est-ce que l'État est en mesure de créer l'emploi? Je crois que ça doit être la réflexion
d'accord,
principale.
Merci beaucoup, Esaïe. Oui, Abbas, 30 secondes.
Oui, 30 secondes. Je voulais revenir sur cette question de délinquance juvénile qui est actuellement dans nos écoles, qui conduit à des grossesses précoces des enfants. Je pense qu'il faut mettre beaucoup plus l'accent sur la prise de la drogue, la chicha. En temps, il y avait le ministère des enseignements primaires et secondaires qui avait pris une décision interdisant la prise de la chicha et de la drogue dans les établissements. Est-ce que cette décision-là est suivie?
C'est la question. D'accord, oui, je sais.
Non, j'ai écouté les uns et les autres, ceux-là qui m'ont souhaité joyeux anniversaire, merci à eux. Seulement, je fais un constat, ce constat-là est amer, mais avouons-le, je n'arrive pas à comprendre que lorsqu'on parle de développement au niveau de la base et la commune du Golfe 1 qui est là aujourd'hui, la commune dans laquelle je suis d'ailleurs,
qui prône le développement de cette commune, mais malheureusement, quand vous y allez, ce que l'on observe, ça amène à l'interrogation. Est-ce que aujourd'hui, il est question maintenant de régler des comptes à ces gens-là qui sont dans cette commune, parce que c'est une commune qui est appelée la commune de Baie, qui est hostile au régime à un moment donné, et maintenant, si on commence par débaucher donc les autochtones de la commune dans le régime, est-ce que c'est l'occasion maintenant pour régler les comptes à ces gens-là de la commune? Je terminerai peut-être à souhaiter également un joyeux anniversaire à Souvi et Justin, DG de 5, du bas 5 kilos, et coucou également à M. Adabla Marbouna.
D'accord, merci beaucoup, Justin Anani. Vous êtes journaliste indépendant et vous collaborez avec beaucoup de journaux. Et merci, Esaïe Eto. Vous êtes le rédacteur en chef alors du journal Focus Info. Et Sylvestre Béni, merci à toi. Merci. Directeur de publication du journal La Manchette. Abassi Saka, merci d'être passé. Vous êtes le directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Vous qui nous avez appelés pour vos diverses contributions à ce débat. Merci à vous. Merci à Kiki Sousa qui a assuré la mise en onde. Jérôme Akouta a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve demain jeudi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachteiner, la vie dorée.